Bonsoir, chers amis. Christos en viat. Christos en esti. C'est une joie, évidemment, de parler maintenant, après la grande fête de Pâques. Nous sommes donc toujours dans le temps pascal. Et ça marque, évidemment, aussi, pour notre cours, une étape. Nous avons terminé la phase de préparation, pourrait-on dire. Et maintenant, nous entrons dans la phase vraiment chrétienne, avec l'immense personnalité d'Origène. Origène, c'est 185-253 à peu près. Évidemment, nous étions le dernier cours porté sur Philon d'Alexandrie, et maintenant nous sommes à Origène. Entre Philon et Origène, il s'est produit des événements très très importants. Bien sûr, c'est la fondation, pourrait-on dire, de l'Église, le développement de l'Église, en premier lieu. C'est aussi la destruction du Temple. Et on peut dire aussi que la polémique va devenir plus dure, d'une part contre les littéralistes de la loi, qui se divisent en fait en deux groupes très différents, ceux que Origène appelle les Juifs, et il faut entendre par là ceux qui parmi les Juifs prenaient l'Ancien Testament au pied de la lettre, et cela s'applique aussi d'ailleurs à une partie des chrétiens, donc c'est pas une notion ethnique, c'est une notion plutôt spirituelle. Et les gnostiques, qui eux aussi prennent l'Ancien Testament au pied de la lettre, et tous les deux, évidemment, s'opposent à l'interprétation spirituelle de l'Ancien Testament. On peut dire que dans cette première phase du christianisme, l'Ancien Testament joue un rôle central. L'interprétation de l'Ancien Testament joue un rôle central. Origène va avoir une intervention décisive, pourrait-on dire. D'une part, il va asseoir scientifiquement le texte. C'est lui qui va établir le texte de l'Ancien Testament de façon scientifique. Il va aussi essayer de donner une synthèse théologique qu'il présente d'ailleurs à titre souvent d'exercice spirituel, ce qu'il appelle gymnastikos. L'Église ne le retiendra pas. Mais il va aussi développer, décrire les voies de l'ascension spirituelle de l'âme vers Dieu, qu'il va rattacher d'une certaine façon au martyr, et on peut voir aussi en lui un précurseur du mouvement monastique. Donc son influence est énorme, considérable. Nous connaissons assez bien sa vie. Les 3e et 4e siècles sont remplis de ses disciples. Par exemple, Zeb de Césarée, qui va écrire tout un livre sur lui. Didyme, qui va continuer son œuvre exégétique et mystique à Alexandrie. Saint Grégoire le Thaumaturge, qui va transmettre son œuvre aux Cappadociens et à la Cappadoce. Il va la transmettre à Basile, à Saint Basile le Grand, à Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire le Théologien. C'est-à-dire que, et les deux, je vous rappelle, vont composer une philokalie. La première philokalie, ça veut simplement dire anthologie. la Philokalie d'Origène. Il aura une influence considérable sur le monachisme, au travers d'Évagre le Pontique, au travers de Cassien, et au-delà, cela touchera les moines d'Occident. Il inspirera aussi Saint Maxime le Confesseur. Plusieurs grands spirituels latins s'inspireront de lui, parmi eux Hilaire de Poitiers ou encore Saint Ambroise de Milan. Son œuvre a provoqué évidemment des débats très passionnés. C'est plutôt dans ses spéculations qu'il a été contesté. On y reviendra et il a été, on lui a reproché notamment aussi de donner une place de subordination au Fils par rapport au Père, mais on y reviendra. Saint Jérôme, qui avait commencé par être son admirateur, va devenir un de ses adversaires les plus acharnés. Et en 400, un concile provoqué à Alexandrie par le patriarche Théophile va condamner un certain nombre d'erreurs. Et la question va rebondir au VIe siècle. Effectivement, un certain nombre de moines de Palestine s'autorisaient d'Origène, se réclamaient d'Origène pour défendre un certain nombre de points de vue. Et l'empereur Justinien lui-même va participer à la controverse et finalement les positions dites origénistes vont être condamnées par le concile œcuménique de Constantinople en 543. Je reviendrai sur tout cela dans un autre cours où l'on parlera de l'origénisme et de sa condamnation. Et l'on verra que la plupart des opinions qui ont été condamnées ne sont pas celles d'Origène, mais sont celles de certains de ses disciples, et en particulier celles d'Évagre le Pontique. Et cela a été démontré avec brio. Effectivement, on s'est demandé comment, où étaient ces propos. Vous savez, quand un concile condamne des propositions, il les cite. Les condamnations d'un concile, c'est pas n'importe quoi, c'est extrêmement précis. Donc on a cherché dans tout le texte où se trouvaient ces propositions. Et en fait, on ne les trouvait pas. Et on a fini par comprendre qu'elles se trouvaient dans les œuvres d'Évagre le Pontique, qui n'existent plus en grec, mais qui existent en syriaque. Et c'est le mérite d'Antoine Guillaumont, qui est le grand spécialiste d'Évagre, d'avoir démontré tout cela. Mais on y reviendra en son temps. En fait, malheureusement, on peut dire que tout cela, toute cette agitation a un peu perturbé la réception d'Origène, c'est-à-dire qu'on a voulu le ramener à un aspect particulier de sa personnalité, alors qu'il a fait une œuvre globale et il a eu une position qui était toujours une position d'église. Son œuvre est considérable. Elle est citée par plusieurs auteurs, dont Eusèbe. Mais là aussi, nous avons plusieurs problèmes, parce que un certain nombre d'ouvrages sont perdus et d'autres ne sont connus que par des traductions latines de Ruffin. Et en particulier, l'œuvre la plus contestée d'Origène, qui est une œuvre de jeunesse, et qu'on appelle le Traité des Principes, a été traduite par Ruffin et donc nous n'avons pas l'original. Et alors, ce qui est très gênant, c'est que Ruffin est intervenu sur le texte. Et Ruffin était de bonne foi, parce qu'il pensait qu'on avait déformé le texte d'Origène. Qu'il y avait eu, en quelque sorte, des gens qui avaient exagéré le texte d'Origène, et donc il fallait le rétablir. Donc voilà, nous avons un problème qui est un peu délicat, qui est celui de cette réception et de l'analyse de cette réception. Ceci dit, il ne faudrait pas s'arrêter à ces œuvres. Le plus important du travail d'Origène, c'est son œuvre, on pourrait dire, d'enseignant. Origène est avant tout un enseignant, un homme qui prêche, un homme d'église. Pour ça, il a besoin d'établir le texte de l'Ancien Testament. Ce sont les exemples. Avec les différentes versions, il essaye d'arriver au texte le plus proche du texte authentique. Et son œuvre se développe en trois genres, les commentaires, les homélies, les scolies, et enfin, des ouvrages plus théologiques, comme les traités des principes. Puis, vers la fin de sa vie, nous avons un grand ouvrage de lui, qui est le Contra Celsus, que nous possédons, alors cette fois-ci, en grec. Nous sommes en 248. De plus, nous possédons un certain nombre de textes, comme son exhortation aux martyrs, comme son traité sur la prière, qui sont extrêmement intéressants. Donc, sa vie est bien connue. Il a passé en fait toute la fin de sa vie à Césarée, et donc c'est normal, il est normal qu'Eusèbe de Césarée le connaisse bien, et soit une des sources pour nous raconter sa vie dans le livre 6 de son histoire ecclésiastique. Nous avons aussi un discours de reconnaissance qui lui a été attribué par un saint, Saint Grégoire le Thaumaturge, qui avait été l'élève d'Origène à Césarée. Et c'est lui qui convertit Macrine, Sainte Macrine, qui était la grand-mère de Grégoire de Nice et de Basile, et qui lui transmit avec la foi l'admiration pour le maître qui lui en avait expliqué les splendeurs. Donc en fait, nous avons toute une réception de l'œuvre d'Origène chez les Cappadociens. Origène est né en Égypte. Il est né dans une famille chrétienne. C'est important parce que nous avons là un produit de l'éducation chrétienne. Et Eusèbe insiste beaucoup sur le fait que il était très attiré par la parole divine, qu'il connaissait par cœur des passages de l'Écriture, et qu'il était en quelque sorte amoureux du logos, dans son double sens de verbe subsistant et de parole scripturaire. Une deuxième caractéristique de cette enfance d'Origène, c'est que nous sommes dans une période extrêmement difficile. Nous sommes dans une période qui est encore marquée par le martyre. Et la persécution va éveiller dans l'âme ardente d'Origène des sentiments qui nous sont décrits par Eusèbe de Césarée. Septime Sévère était à la 10e année de son règne. Laetus gouvernait Alexandrie et le reste de de l'Égypte. Démétrius avait reçu tout récemment, alors après Julien, l'administration des églises de ce pays. Le feu de la persécution allait grandissant et des milliers de chrétiens avaient ceint la couronne du martyr. Et c'est durant cette période que furent martyrisés Perpétue et Félicité. Un tel désir de martyr s'empara de l'âme d'Origène, encore tout jeune enfant, qu'elle est à la rencontre des dangers, bondir et s'élancer au combat lui était une joie. Sa mère l'exhortait à prendre pitié de son amour maternel, mais le voyant fortement tendu, lorsque, après l'arrestation de son père, il se donnait entier à son élan pour le martyr, elle lui cacha tous ses habits et lui imposa, pour ainsi dire, de rester à la maison. Mais lui, ne pouvant rester inactif, envoya à son père une lettre d'exhortation au martyr, dans laquelle il l'encourage et lui dit expressément « Fais attention à ne pas prendre un autre parti à cause de nous. » Nous voyons donc que leur âme d'Origène était bien trempée. Toute sa vie, d'ailleurs, il restera marqué et tendu vers le martyr. Mais ce qui va le fasciner aussi, c'est le fait que chez les chrétiens, le mépris de la mort est l'expression de leur victoire, déjà acquise sur les puissances mauvaises dont la mort est l'aiguillon. Qu'elle est comme une présence vivante de la résurrection, elle est donc un charisme. Il y a un charisme des martyrs qui se manifeste en particulier par leur impassibilité, charisme dont elle a été le témoin. Son père mort en martyr, il se trouve à 17 ans, chargé de famille. Il a la chance de pouvoir continuer ses études. Comme il était déjà assez avancé, il put bientôt prendre la profession de grammairien et subvenir par là aux besoins de sa famille. Il peut avoir été souligné par Eusèbe d'une intention apologétique, mais il reste caractéristique d'Origène que celui-ci a toujours adhéré au canon de la foi, comme il l'expose au début du traité des principes. Il n'a jamais voulu être autre chose qu'un défenseur de la foi contre les hérésies. Son œuvre est en grande partie dirigée contre les hérésies. Ce qui apparaît chez lui, c'est un sens profond de l'Église. Il dira « Moi qui porte le nom de prêtre et qui prétends prêcher la parole de Dieu, si je fais quelque chose contre la discipline de l'Église et la règle de l'Évangile, en sorte que je sois un scandale pour toi et pour l'Église, que l'Église universelle, dans son unité, me sépare. » Il avait 18 ans lorsqu'il fut pris comme à l'école de la catéchèse, et il va juger incompatible l'enseignement des sciences grammaticales avec le travail qui a pour but de donner des connaissances divines. Il céda tout ce qu'il avait comme ouvrage ancien, dont les copies étaient admirablement écrites. Est-ce que on s'est demandé s'il a fondé une école? C'est pas là, je me réfère au livre de Monseigneur Danielou sur Origène, qui a été la base en quelque sorte de mon travail. Il faut faire attention, on distingue d'une part les philosophes qui regroupaient autour d'eux des disciples, des philosophes chrétiens. Je vous rappelle qu'à cette époque, les grands spirituels chrétiens estimaient être aussi des philosophes. Je parle de Justin, de Clément. Origène, à un moment de sa vie, a ainsi créé une sorte d'enseignement supérieur où il enseignait les arts libéraux, la philosophie de l'écriture. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On peut appeler aussi, en second lieu, un groupe de penseurs, écoles, penseurs qui sont unis par des opinions communes. C'est ainsi que, comme je l'avais dit lors du premier cours, je voulais simplement présenter un certain nombre de grandes personnalités d'Alexandrie, qui, bien que très différentes, en fait, dans leur position, puisqu'il y a des philosophes comme Plotin, il y a un juif comme Philon d'Alexandrie, il y a un spirituel comme Origène, il y a en fait un courant, il y a des aspects, il y a des points communs entre ces personnes. Et là, on peut parler peut-être d'une école. En troisième lieu, à la fin du deuxième siècle et au début du troisième, on voit s'organiser le développement d'un enseignement catéchétique. La mission que Démétrius confia alors à l'Origène est très clairement exprimée par Eusèbe, c'est une mission de catéchèse. Il s'agit de faire quelque chose d'élémentaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine période de persécution. Et on n'a plus personne pour assurer l'instruction des candidats au baptême. Le fait qu'on s'adresse à Origène montre à quel point celui-ci, malgré sa jeunesse, s'imposait. Il prit très au sérieux, presque au tragique, ses nouvelles fonctions. Il abandonna alors l'enseignement de la grammaire et on dit même tous ses chers livres. Il se donnait totalement à ses nouvelles fonctions. Désormais, sa vie sera consacrée exclusivement à l'étude de l'écriture et à la formation des catéchumènes. C'est la première partie de l'activité biblique d'Origène. Il dut alors acquérir une profonde connaissance de la Bible, mais c'était seulement en vue de la formation des catéchumènes. Ces hommes qui se présentaient à Origène, ils s'exposaient au martyr. Aussi, pour Origène, leur enseigner la foi et les préparer au martyr était une même chose. Il obtint, dit Eusèbe, un nom de la plus grande célébrité auprès de ceux qui sont initiés à la foi, à cause de son accueil et de son zèle à l'égard de tous les saints martyrs connus et inconnus. Il les assistait, en effet, non seulement lorsqu'ils étaient en prison et pendant qu'ils étaient interrogés, mais même ensuite lorsqu'ils étaient conduits à la mort, aussi bien lorsqu'ils s'avançaient courageusement et avec grande audace, ils saluaient les martyrs avec un baiser. Il arriva souvent que la foule des païens entra en fureur, et il s'en fallut de peu qu'ils ne se précipitassent sur lui. Chaque jour, la persécution contre lui était si ardente que la ville entière ne suffisait plus à le cacher. Il allait de maison en maison, changeant de demeure, chassé de partout à cause du nombre de ceux qui venaient à lui pour l'enseignement qu'il donnait. C'est par les actes de sa vie surtout, par la force divine qu'il animait, qu'il entraînait des milliers de gens à l'imiter. Plusieurs de ceux qui avaient reçu de lui la divine parole se distinguèrent à l'époque et finirent par le martyr. L'abandon de son métier de professeur de grammaire ne fut pas seulement pour Origène un don total à des fonctions de catéchète. Ce fut aussi pour lui une rupture avec le monde, l'entrée dans la vie de perfection évangélique. C'est ce qu'Eusèbe appelle embrasser le règne de vie des philosophes. Et on a vu ce que signifiait la philosophie à cette époque. Et nous sommes ainsi aux origines d'un mouvement qui aboutira en fait au monachisme plus tard. Et il est d'ailleurs intéressant de remarquer que ce mouvement est lié aux martyrs. Cette ascèse chrétienne est essentiellement eschatologique. Elle n'est pas fondée sur le mépris du corps ou la purification de l'intellect, mais sur l'attente de la réunion avec le Christ et sur le caractère provisoire du monde présent, selon l'esprit de saint Paul. Le temps est court, que ceux qui ont des femmes sont comme n'en ayant pas. On sait que dans son zèle excessif et pour la pratique de l'Évangile, il prit à la lettre la parole « Il y a des eunuques qui se sont rendus tels pour le royaume des cieux ». Sur ce point, il reconnut son erreur. Mais ce qui importe ici, c'est le fait qu'Origène embrasse vraiment les conseils évangéliques et commence par les appliquer à lui-même. Ce que va fonder Origène, c'est une institution à nouvelle. Ce qu'il veut aussi, c'est créer un centre d'études scientifiques. Origène s'est expliqué là-dessus dans une lettre que nous a conservée Eusèbe. Lorsque je me consacrais à la parole, il venait à moi tantôt des hérétiques, tantôt des gens formés aux études grecques et surtout des philosophes. Il m'a paru bon d'examiner à fond les doctrines des hérétiques et des philosophes et ce que les philosophes faisaient profession de dire sur la vérité. J'ai fait cela à l'imitation de Pantène, qui avant nous avait puisé chez les Grecs une préparation profonde et a été utile à beaucoup. Donc on voit qu'il se réfère là à un courant, à une personnalité qui était celle de Pantène. Pantène lui-même avait eu comme disciple quelqu'un que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Clément d'Alexandrie. Et il est d'ailleurs intéressant de voir que Origène se réfère plus à Pantène qu'à Clément d'Alexandrie. Et il veut sans doute signifier par là qu'il ne se solidarisait pas avec toutes les positions de Clément. Reste que ce que propose Origène, c'est bien de reprendre ce qu'a fait Pantène. Mais cela implique un changement complet à l'égard de la culture profane. D'une part, il veut que son école soit ouverte à tous. Il ne s'agit plus de préparer au baptême, il s'agit de distribuer la science. Et si Origène est la voix de certains élèves, de voir certains élèves comme Ambroise qui devint son mécène, se convertir, d'autres, comme il le dit dans le Contre-Cels, devinrent seulement meilleurs dans leur propre vie. Plus intéressante est la question du programme des études. Et l'on voit qu'il s'agit du programme classique. Il comprenait 7 branches essentielles, grammaire, dialectique, rhétorique, musique, astronomie, arithmétique, physique, et enfin la philosophie qui venait couronner le tout. Donc il y a un esprit très large chez lui. Comme il le dit, toute science vient de Dieu. Dès lors que l'usage peut en être légitime dans certaines limites, il faut d'abord une certaine formation, il faut la purifier de ses erreurs. Si en dehors de ce que la loi nous enseigne, nous rencontrons dans la culture profane du monde certaines choses comme la culture littéraire, l'art grammatical, la doctrine de la géométrie, la loi des nombres, la discipline dialectique, nous la mettrons au service de notre formation. Bien sûr, Origène a une conception très large de la science et il est remarquable que chez lui, nous trouvons chez lui une admiration pour le monde visible, une admiration pour la création, un esprit scientifique qui d'ailleurs va passer chez les Cappadociens les hommes, des hommes qui seront aussi de culture scientifique étendue, comme en particulier Grégoire de Nyssa. Mais toutes ces sciences, pour lui, n'étaient que des préparations, préparations à ce qu'il appelait la philosophie. Et il pensait qu'il fallait éprouver tous les systèmes, prendre ce qu'il y trouve de bien et ne se donner à aucun, car c'est à Dieu seul et à ses problèmes, et à ses prophètes, pardon, qu'il faut admirer. À plusieurs reprises, il revient sur ces principes. Ainsi, Deutéronome 11, l'Exode, ainsi aussi, il nous arrive parfois de trouver quelque chose de vrai chez les païens. Nous ne devons pas aussitôt avec l'auteur mépriser la pensée, ni parce que nous avons une loi qui nous a été donnée par Dieu nous enorgueillir, mépriser les paroles des sages, mais comme dit l'apôtre, éprouver tout et retenir ce qui est bon. Il a appris l'hébreu, il a établi les versions courantes, il va composer ses exemples, et il a comme but d'expliquer le sens de la parole de Dieu contenue dans le livre saint. Les années 212-230 sont remplies par l'enseignement d'Origène ou Didascalé qu'il a fondé. On le réclame de tous côtés. Il fait plusieurs voyages, un voyage à Rome, au temps du pape Zéphirin, des missions, des conférences afin d'expliquer les Saintes Écritures, de la prédication, des commentaires, de différents ouvrages. Et on voit qu'autour de lui, sept tachygraphes, c'est-à-dire sept secrétaires qui étaient rompus à l'écriture des textes, écrivait sous sa dictée et se relayait à heure fixe. Il n'y avait pas moins de copistes, ainsi que de jeunes filles exercées à la calligraphie. Ambroise pourvoyait amplement à ce qui était utile à la subsistance de tous. L'enseignement d'Origène à Alexandrie se termina en 231 par un incident qui est une des parties un peu sombres de son histoire et qui l'opposa à l'évêque Démétrius. Au cours d'un voyage en Palestine, il est ordonné prêtre par les évêques de ce pays. Or, là, nous avons une irrégularité sur le plan ecclésiastique. On ne peut pas recevoir la prêtrise sans l'autorisation de son évêque, d'une part, et d'autre part, il avait eu quand même cette mutilation volontaire. Et Démétrius d'Alexandrie réunit un synode qui déclare son ordination invalide. Il va se rendre alors à Césarée, où les évêques de Palestine vont l'accueillir avec joie. C'est dans cette partie du monde, dans cette communauté de Césarée, que va s'exercer en fait toute la fin de sa vie la plus longue, puisqu'il dépassera 60 ans. Il continue de publier. C'est l'époque où il termine ses commentaires, où il écrit le contre-sels, mais l'aspect nouveau que prend alors son activité, c'est la prédication. Il presse presque chaque jour à l'église de Césarée sur la demande de l'évêque pour expliquer l'écriture. Nous avons de nombreuses homélies, mais pour lui la prédication c'est quasiment exclusivement l'explication de la parole de l'écriture. Nous sommes à l'époque où les dévots païens se font initier. Parfois, il y a une certaine confusion qui est liée à l'invasion des cultes orientaux. Ainsi, nous voyons que la mère de l'empereur, appelée Mamea, connut la renommée d'Origène, et elle voulut voir cet homme, faire l'expérience de son intelligence. Elle lui envoya des gardes du corps pour l'inviter. Il demeura auprès d'elle un certain temps et lui exposa un grand nombre de questions. En fait, dans les milieux impériaux, nous avons une sorte d'invasion des cultes orientaux et la constitution d'un syncrétisme religieux. Par exemple, le troisième successeur au Septime Sévère sera un jeune prêtre d'Emez, Elio Gabal, qui se considérait comme le prêtre du dieu soleil. Dans ce milieu, la curiosité des choses religieuses est intense. Alexandre Sévère, successeur d'Elio Gabal, priait chaque matin devant les images d'Orphée, d'Apollonis de Tyane et de Jésus. En 335, Alexandre Sévère est assassiné et Maximilien le succède. Alors, une persécution éclate contre les chrétiens. C'est alors qu'Origène adresse à son ami Ambroise, arrêté et menacé de mort, son exhortation au martyr. Origène lui-même semble avoir fait un séjour en Cappadoce d'après Pallade. Très important pour l'autorité dont Origène jouit dans l'Église est le fait qu'il soit appelé plusieurs fois en Arabie où il avait fait un premier séjour pour y réfuter les hérétiques. Il se rend aussi à Athènes. Et là se situe un épisode un peu difficile. C'est la fameuse rencontre avec Plotin. Est-ce qu'il l'a rencontré à Athènes? Est-ce qu'il l'a rencontré à Rome? Est-ce bien du même Origène qu'il s'agit, c'est une question difficile. Par ailleurs, Origène retient aussi une correspondance qui semble avoir été considérable. En 247, Caius Marius Maecius Decius, un Illyrien, devient empereur sous le nom de Dèce. Celui-ci, pour arrêter les progrès considérables du christianisme, reprend les persécutions qui n'ont jamais été si violentes. Tous les habitants de l'empereur doivent sacrifier sous peine de mort et se faire délivrer des billets de sacrifice, qu'on appelle des libellis. Et nous avons encore ces billets de sacrifice dans les collections de papyrus. C'est dans cette persécution que Fabien, évêque de Rome, trouva la mort. Saint Cyprien s'exile et Origène n'échappa pas à la persécution s'il n'y perdit pas la vie. Si Origène ne mourut pas de ses persécutions, son désir de s'effrayer par le Christ avait été exaucé. Et ce titre de martyr était pour lui plus précieux que celui de docteur. La date de la mort d'Origène n'est pas certaine. Disons que c'est aux alentours de 253. Ce qui est central peut-être chez Origène, c'est l'étude de la Bible. On peut dire que son idée essentielle, c'est que le Logos est présent sous les apparences de l'Écriture pour être la nourriture de l'homme. C'est lui qui est au centre du culte spirituel du Nouveau Testament. Le Logos a pour mission de diviser la victime et de se manifester. Ainsi, en expliquant l'Écriture, le didascale remplit cette mission qui manifeste le sens intérieur partager sur l'autel spirituel que sur les âmes des fidèles la parole de l'Écriture. Tout s'unifie pour lui dans cette perspective. On peut dire qu'il est le type même du didascale des premiers siècles chrétiens avec le triple aspect de contemplation des mystères cachés dans l'Écriture, de science spéculative et de prédication. Aussi, rien ne serait plus faux que de juger l'exégèse d'Origène d'après quelques interprétations allégoriques contestables. Il faut bien voir que l'interprétation de l'Écriture de son temps se fonde sur la typologie. C'est-à-dire que c'est l'Évangile, c'est le Nouveau Testament qui donne son sens à l'Ancien. C'est la tradition typologique de l'Évangile de Saint Paul, de Justin, d'Irénée, sous ses diverses formes christiques, ecclésiales, mystiques, eschatologiques, qui est le marque de la culture propre de son temps. Une interprétation allégorique scolaire va aussi être présente, mais elle est différente. Il faut distinguer ce qui relève de la typologie de ce qui relève de l'allégorie, et ce qui n'a pas été toujours fait. Il s'agit de trouver sous le corps de la lettre l'esprit de façon à le comprendre. C'est la découverte du sens spirituel qui est l'essentiel pour Origène. En cela, il est tout simplement l'écho de la tradition universelle de l'Église. Tout le travail que nous essayons d'accomplir sera précisément de nous efforcer de discerner dans son exégèse ce qui est l'écho de la tradition et ce qui est l'influence du dehors. Donc nous avons à distinguer, à le situer dans le courant de la vie de l'Église et dans la culture de son temps. Dans le courant de la vie de l'Église, il se situe dans le courant de la typologie qui est traditionnelle à toute l'Église. Dans la culture de son temps, qui est la culture d'Alexandrie, il est influencé par l'allégorie, qui, elle, est un peu secondaire par rapport à la typologie. Nous avons chez lui un traité où il explique sa méthode, c'est le quatrième livre du traité des principes. Si nous voulons comprendre la place de l'interprétation spirituelle à cette époque, il faut comprendre quels sont les problèmes qui sont posés alors. Comme je l'ai dit au début, ce qui est fondamental, c'est la signification que peut avoir l'Ancien Testament. D'un côté, nous avons les littéralistes, ce que Origène appelle les Juifs, qui continue d'affirmer la valeur littérale et de pratiquer la loi mosaïque. Et d'autre part, nous avons les gnostiques, qui rejetaient l'Ancien Testament comme l'œuvre du démiurge et une part de sa création manquée. Ce qui caractérise en fait les deux, aussi bien les littéralistes que les gnostiques, c'est le fait de prendre l'Ancien Testament au pied de la lettre. Les littéralistes veulent observer la loi de Moïse à la lettre. Les gnostiques, considérant ce qui est dit de Dieu dans l'Ancien Testament à la lettre, considèrent que ce n'est pas un Dieu bon qui a créé le monde, et que donc il faut rejeter l'Ancien Testament. Ce qui manque, en fait, dans cette pensée, c'est l'idée fondamentale du christianisme, à savoir qu'il y a un progrès. Cette idée est complètement nouvelle à l'époque. Nous avons des systèmes philosophiques qui nous parle de réalité philosophique. Nous avons des systèmes religieux, mais le christianisme introduit une nouvelle dimension qui est celle de l'histoire, à savoir qu'il y a une progression de la révélation. C'est une notion qui manquait complètement à la pensée antique. C'est en fonction, donc, de cette idée que l'Écriture et la parole de Dieu ne peut rien nous dire qui soit indigne de Dieu. Et donc, là où quelque chose est indigne, il faut, de lui, il faut l'interpréter spirituellement. Cette idée va guider Origène pour l'interprétation de la loi. Qui a sa raison d'être mais qui est maintenant périmée. Elle a sa raison d'être, c'est ce que refusaient les gnostiques. Elle est maintenant périmée, c'est ce que refusent les littéralistes. La demeure où habitait l'Église, ce sont les écritures de la loi et des prophètes. Là, en effet, se trouve la chambre du roi, remplie de richesses, de la sagesse et de la science. Là est le cellier de vin, c'est-à-dire la doctrine mystique ou morale qui réjouit le cœur de l'homme. Le Christ, donc, en venant, s'est d'abord arrêté un peu derrière la paroi de l'Ancien Testament. Il se tenait en effet derrière la paroi lorsqu'il ne se manifestait pas au peuple. Mais lorsque le temps est venu et qu'il a commencé à apparaître par les fenêtres de la loi et des prophètes, c'est-à-dire par les choses qui étaient prédites de lui, et à se montrer à l'Église, à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire à celle qui était assise à l'intérieur de la lettre de la loi, il l'invite à sortir de là et à venir dehors vers lui. Si en effet elle ne sort pas, si elle n'avance pas et ne progresse de la lettre à l'esprit, elle ne peut rester unie à son époux, ni être jointe au Christ. C'est pourquoi il l'appelle et l'invite à passer des choses charnelles aux choses spirituelles, des visibles aux invisibles, de la loi à l'évangile. Viens donc, ma bien-aimée, ma belle, ma colombe. C'est un verset du Cantique des Cantiques. Nous qui sommes de l'Église, nous recevons Moïse à bon droit et nous lisons ses écrits, pensant de lui que prophète et Dieu se révélant à lui, il a décrit en symbole, figure et allégorie les mystères futurs que nous enseignons, accomplis en leur temps. Celui qui ne le comprend pas en ce sens, qu'il soit juif ou même des nôtres, ne peut pas même enseigner qu'il fut prophète. Comment prouverait-il qu'est prophète quelqu'un dont il affirme que les ouvrages sont communs, sans connaissance de l'avenir, ne contenant aucun mystère caché ? L'Ancien Testament n'a jamais été mauvais, mais il est maintenant périmé. Il faut le quitter pour embrasser l'Évangile. Il devient mauvais si on veut s'y attacher, alors qu'il représente un ordre désormais révolu. Origène touche ici au fond même de la question. Il rejoint et prolonge la pensée la plus profonde d'Irénée, celle de la valeur pédagogique de la loi et de son dépassement par l'Évangile. De peur que les choses que nous disons ne te paraissent difficiles à prouver, connais-les dans le détail. Jérusalem était auparavant grande ville royale où un temple très célèbre était élevé à Dieu. Mais après qu'est venu celui qui était le vrai temple de Dieu et qui disait du temple de son corps « Détruisez ce temple », et parce que la Jérusalem céleste commençait à montrer ses mystères, celle de la terre a été détruite, là où celle du ciel est apparue, et dans le temple n'est pas demeuré pierre sur pierre, dès lors que la chair de Christ a été faite le vrai temple de Dieu, et qui disait du temple de son corps « Détruisez ce temple », et parce que la Jérusalem céleste commençait de montrer ses mystères, celle de la terre a été détruite. C'est pourquoi, donc, la divine dispensation a fait en sorte que, et la ville elle-même, et le temple, et toutes ces choses soient également détruites, de peur que quelqu'un, peut-être encore enfant et petit dans la foi, en les voyant subsister dans l'éblouissement du rite des sacrifices, de l'ordre des liturgies, ne soit séduit par diverses formes. Ainsi Dieu, veillant sur notre faiblesse et voulant faire croître son Église, a fait disparaître entièrement toutes ces choses pour que devant leur disparition, nous croyons sans retard que ces choses-ci sont vraies, avant lesquelles, dans celle-là, la figure a précédé. À la destruction, en effet, de la figure, désormais périmée, a succédé la réalité qui accomplit la figure. » apparaît ainsi à la fois la succession et la continuité des deux économies. À la fois toute la nouveauté de l'Évangile et toute la vétusté de la loi, et en même temps, et c'est proprement la notion de figure, la ressemblance des réalités spirituelles de la loi nouvelle et des réalités charnelles de l'ancienne. Ici encore, c'est toute la tradition de l'Église qu'Origène résume et systématise. Nous sommes ici dans la typologie, dans ce qu'elle a de profondément traditionnel, en ce qu'elle contient de réalités dogmatiques, en ce qui en fait une part essentielle du dépôt de l'Église. Origène range le sens spirituel dans le contenu de la foi. Nous croyons que les Écritures ont été écrites par l'Esprit de Dieu et qu'elles ont non seulement un sens littéral, mais aussi un autre qui est caché au plus grand nombre. En effet, les choses qui sont écrites sont les signes de certains mystères et les images des réalités divines. Sur quoi l'Église universelle a la même doctrine, à savoir que toute la loi est spirituelle, c'est une phrase de saint Paul, mais que les choses que la loi signifie spirituellement ne sont pas connues de tous, mais de ceux seulement à qui la grâce du Saint-Esprit est donnée dans une parole. Nous arrivons au fond même du mystère chrétien de l'histoire et à ce point où se rencontrent le symbolisme et le drame, le progrès et la croix. L'histoire chrétienne est symbolique, elle n'est pas une succession d'époques hétérogènes, elle constitue un plan où chaque promotion dépasse mais prolonge la précédente. C'est là un mystère de mort et de résurrection, et c'est d'ailleurs le sens même de la mort et de la résurrection de Christ. Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Il fallait pour qu'apparût le temple nouveau, que le temple ancien fût détruit. Il fallait donc que le Christ mourût en tant qu'il s'était identifié au temple ancien en revêtant l'homme juif pour qu'en ressuscitant, il instaura le temple nouveau qui est son corps ressuscité. La mort du Christ apparaît donc comme destruction de l'ordre ancien, celui de la loi, dont il s'est voulu solidaire parce que cette destruction était la condition de l'ordre nouveau. Elle est la destruction de la figure comme figure afin d'accomplir la figure. On peut dire que la pensée d'Origène, sa position à l'égard du judaïsme, ressemble beaucoup à la position à l'égard des cultes païens. Une religion est fausse du fait qu'elle est anachronique, qu'elle représente une étape révolue du plan de Dieu qui se réalise en étape successive. Nous verrons alors que selon la conception d'Origène, l'histoire humaine n'apparaît finalement que comme la préjonction, que comme la projection d'une histoire céleste dont elle est l'ombre et l'exemplaire. Ce qui oppose Origène à la philosophie, c'est précisément que pour lui, l'histoire est la réalité essentielle du christianisme. Si la théologia, la contemplation, est toujours la même, l'economia, c'est-à-dire les choses humaines, sont, elles, une histoire. Mais non seulement les choses humaines, mais l'histoire se déploie sur un double plan, sur le plan céleste et sur le plan de l'histoire de l'humanité. L'intelligence des Écritures est une grâce de Christ. Seul celui qui a l'esprit de Jésus peut les comprendre spirituellement. La gnose chrétienne, qui est la science spirituelle des Écritures, est un charisme. L'exégète doit donc être un spirituel. Telle est donc la doctrine de saint Paul, du pseudo-Barnabé, de Clément le Romain, de Justin. Pour Justin en particulier, l'intelligence des Écritures requiert une grande grâce de Dieu. Pour Clément d'Alexandrie, la gnose qui pénètre les mystères de l'Écriture est liée à la perfection spirituelle. Seul le parfait pénètre le sens spirituel des choses parce qu'il est lui-même tout entier spirituel. À chaque instant de tes homélies, il demande à ses auditeurs de prier pour que l'Esprit Saint l'éclaire. Ou cette question, si le Seigneur m'en accorde intelligence grâce à vos prières, si du moins nous sommes dignes de recevoir le sang du Seigneur, je dirai quelques mots. Ceci s'exprime en particulier par l'image du voile enlevé. Il n'est pas facile à qui que ce soit de décrire toutes les allégories que ce sujet renferme. Il faut néanmoins prier pour que soit enlevé le voile qui est sur son cœur à lui, qui s'efforce de se tourner vers le Seigneur, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Il faut prier pour que le Seigneur lui-même ôte le voile de la lettre et fasse briller la lumière de l'Esprit. Donc il faut oser dire que les évangiles sont les prémices de toute l'Écriture, et l'évangile de Jean les prémices de l'évangile. Personne ne peut en avoir intelligence s'il n'a reposé sur la poitrine de Jésus et n'a reçu de Jésus Marie pour mère. Aussi, quelle intelligence faut-il pour que nous puissions comprendre dignement les paroles cachées dans les vases d'argile de la lettre. Ainsi, le Christ est le principe intérieur qui communique l'intelligence spirituelle. Le Christ est aussi l'objet de cette intelligence spirituelle, car il est question de lui dans l'Écriture. Dans ce qui est écrit dans la loi, tout se rapporte en figure et en énigme au Christ. Je vous rappelle les paroles du Christ aux disciples d'Emmaüs. Il leur montra tout ce qui le concernait, lui le Christ, dans la loi et dans les prophètes. Nous sommes ici dans la continuation très stricte de l'Évangile. Préfiguré dans l'Ancien Testament, le Christ est dans toute sa richesse. Il y a donc plusieurs niveaux de sens spirituel de l'Écriture. Il faut donc établir la correspondance fondamentale des deux testaments. Et l'on peut dire que radicalement, il n'y a que deux sens de l'Écriture, le sens littéral et le sens christique. Telle est en son fond la question des sens de l'Écriture, comme elle s'est posée pour le christianisme primitif. Cette question, cette origine, lui-même qui l'a embrouillée, on va la faire cadrer avec la question philonienne des trois sens scripturaires. Cette question des différents sens me semble tout à fait secondaire. Ce qui est fondamental, c'est le fait de distinguer un sens littéral et un sens spirituel. On retrouve les divers sens traditionnels d'origine. S'agit-il du passage de la mer Rouge, il y avait une tradition qui y voyait une figure du baptême. Il faut donc, il lui donne un sens spirituel. On remarquera toutefois qu'entre ces diverses interprétations eschatologiques, Origène marque ses préférences. Ce qu'il vise directement, c'est celle qui y voit la figure de l'aspect anecdotique de la vie du Christ, et c'est ce que signifie en grec « historia ». C'est cet aspect-là qui lui semble, disons, à rejeter. Ce qui lui semble avoir de la valeur, c'est son aspect théologique. Mais cet aspect théologique est tout aussi historique que l'autre, au sens que nous donnons à ce mot. Y a-t-il une opposition entre Alexandrie et Antioche? Peut-être, mais cette opposition vient plus de ce que l'une met l'accent dans le culte, sur l'esprit que sur les rites. De même, donc, lui met l'accent sur le sens intérieur. Donc on peut opposer d'une part l'accent dans le culte sur l'esprit et les rites, et d'autre part l'accent mis sur le sens intérieur des figures que sur leur plan ecclésial. C'est là le sens propre de l'exégèse alexandrine. L'une et l'autre sont également typologiques. Elles ne s'opposent pas, ainsi qu'on le dit, comme littérales et allégoriques. Mais dans cette exégèse typologique, également christologique, les Antiochiens mettent l'accent davantage sur l'aspect sacramentel de la tradition eucharistique, les Alexandrins sur l'aspect mystique de la tradition spirituelle. Le premier caractère de la typologie originelle est son aspect spirituel et intérieur, qui est tout à fait fondamental. Origène, par exemple, explique le verset « Voici que l'hiver passé, sur des feuilles déplies, elles ont disparu. Sur la terre, les fleurs se montrent, la saison vient des grains, des gais refrains, le recoulement de la tourterelle se fait entendre. » Origène explique d'abord le verset en l'appliquant à l'âme. « L'âme n'est pas une nuit ouverte de Dieu, avant que tout hiver des passions et la tempête des vices se soient dissipés et que désormais nous soyons plus agités et portés par ici et là par tout vent de doctrine. Quand toutes ces choses se sont retirées de l'âme et que la tempête des désirs l'a quittée, alors les fleurs des vertus commencent à fleurir en elle, alors la voix de la colombe se fera entendre, c'est-à-dire la voix de cette sagesse que celui qui dispense le Verbe parle parmi les parfaits. Sagesse de Dieu très haut qui est cachée dans les mystères. C'est là ce que désigne la colombe que l'on trouve dans le cantique. Et par ailleurs, le Christ adresse ses mots à l'Église et figure par le cycle de l'année tout le temps du monde présent. Par l'hiver, il désigne le temps où la grêle et autres pluies frappaient les Égyptiens. Le Christ appelle l'Église et lui dit « Lève-toi et viens à moi ». Car l'hiver qui a submergé les impies et nous tenait dans l'ignorance est passé, et la voix de la colombe, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, va parler sur la terre et dira « C'est moi qui vous parlais, je suis là. Les fleurs des peuples croyants et des églises naissantes ont apparu sur la terre. On dit que les vignes fleurissent et ont donné leur parfum. Les dernières églises qui se trouvent sur la surface de la terre peuvent être appelées des vignes sur le mont du prophète. La vigne du Seigneur des armées est la maison d'Israël, et elles sont dites fleuries quand elles accèdent pour la première fois à la foi. Nous avons ici un sens individuel et le sens ecclésial, l'un et l'autre se rapportant à la vie présente, et Origène continue dans le sens eschatologique. Mais nous pourrons encore interpréter ce texte autrement et y voir une prophétie faite à l'Église, par laquelle elle est invitée aux promesses futures, en sorte qu'après la consommation des temps, lorsque le temps de la résurrection viendra, elle s'entendra dire « Lève-toi !» Et parce que cette parole désigne l'accomplissement de la résurrection, elle est invitée à régner par ces mots « Viens donc, ma bien-aimée, ma belle, viens, car l'hiver est passé. » Citation du Cantique des Cantiques. L'hiver désigne les tempêtes et les orages de l'année présente, par laquelle la vie de l'homme est agitée par les tempêtes des passions. Cet hiver est donc passé pour elle, et dans la voix de la colombe que les doux recevront dans le royaume, reconnaît la personne du Christ, enseignant face à face, et non plus comme dans un miroir et en énigme. On voit ici se dégager un certain nombre de perspectives. De même, lorsqu'il décrit la chute de Jéricho, cette chute s'accomplit avec la venue du Christ et la Pentecôte, qui est le troisième tremblement de terre dont parle Grégoire le théologien dans le discours théologique. Le premier était celui du Sinaï, révélation du Père. Le second, celui du Calvaire, révélation du Fils. Donc la chute du monde et la fin des temps sont arrivés avec le Christ. Cependant, c'est un premier aspect, cette chute du monde qui est acquise en droit doit maintenant être assumée par chacun particulière. Il faut que dans chacune Jésus vienne et qu'au son des trompettes sacerdotales, le monde s'effondre pour elle. C'est là ce qui, dans la théorie des sens scripturaires, correspondra au sens mystique, le premier sens étant le sens christique. Et on voit là comment, par là, tout l'aspect intérieur pourra s'introduire dans la typologie à partir de données certaines. Cette première parousie dans la chair est appelée une ombre par les saintes écritures dans un texte mystérieux. Le souffle de notre visage est le Christ Seigneur dont nous disons qu'à son nom nous vivons parmi les nations. Et Gabriel aussi, quand il évangélisait Marie, lui a dit à la de la Nativité, la puissance du Très-Haut t'a couverte de son ombre. C'est pourquoi nous comprenons que beaucoup de choses sont une ombre. Dans cette première parousie, dont l'accomplissement à la perfection sera achevé dans la seconde parousie. Et l'apôtre Paul dit qu'il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans les cieux. Or, nous qui croyons, nous ne voyons pas encore que nous sommes déjà ressuscités ou assis dans les cieux. Mais ces choses sont esquissées déjà maintenant par la foi, parce qu'en esprit et en espérance, nous sommes élevés au-dessus des choses mortes et terrestres, et que chaque jour nous élevons notre cœur vers les choses célestes et éternelles. Elles seront accomplies à la seconde parousie, en sorte que les choses où nous avons la possession anticipée dans la foi et l'espérance, nous les saisissions alors corporellement dans la réalité des choses. Ainsi donc, il faut comprendre au sujet du diable qu'il est déjà vaincu et crucifié. Mais seulement pour ceux qui sont crucifiés avec le Christ, et que pour tous les croyants et également pour tous les peuples, il sera crucifié lorsque sera accompli ce que dit l'apôtre, que comme en Adam tous sont morts, ainsi dans le Christ tous sont vivifiés. C'est dans le mystère de la résurrection future qui est contenu ici. Alors en effet, il n'y aura plus de diable, car il n'y aura plus de mort. Ce passage nous introduit à un dernier aspect de la doctrine typologique d'Origène. Nous avons jusqu'ici étudié exclusivement une exégèse figurative de l'Ancien Testament. Mais ici, une nouvelle apparaît, c'est que le Nouveau Testament à son tour est figure du royaume futur. Ainsi, de même que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau, le Nouveau l'est à son tour du royaume futur. Ceci est développé par Origène dans un beau passage. Il s'agit du texte du Cantique. À l'ombre du pommier que j'avais désiré, je me suis reposé. Au sujet de la désignation de cette ombre, sous laquelle l'Église dit avoir désiré s'asseoir, je pense qu'il n'est pas hors de propos d'avancer ce que nous pourrons trouver dans l'Écriture sainte. Ce que nous avons de façon plus digne et plus sainte, qui est l'ombre de ce pommier. Jérémie dit dans les Lamentations, « Le Christ Seigneur est le souffle de notre âme, lui dont nous avons dit, à son ombre, nous vivrons parmi les nations. » Tu vois comment, inspiré par l'Esprit Saint, le prophète dit aux nations que la vie est offerte par l'ombre du Christ, et comment son ombre ne donnerait-elle pas la vie, alors qu'il est dit à Marie Annonciation, « La puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. » On voit ainsi les plans divers par lesquels se déploie l'unique réalité contenue dans l'Écriture qui est le mystère de Christ. Le rôle de l'exégète est d'établir entre ces plans des correspondances, d'en saisir les analogies. Je ne vais pas m'appesantir sur le système d'Origène qu'il a présenté lui-même comme un exercice, gymnastikos. Parce que j'y reviendrai dans la question de l'origénisme et de sa condamnation. Je veux simplement essayer de faire comprendre ici, Pourquoi Origène a élaboré ce système à titre d'exercice, gymnasticos, comme il dit. Qu'est-ce que défend Origène? Il défend l'existence d'un Dieu bon et des êtres libres. Il est attaqué par les gnostiques pour qui le Dieu est mauvais, et il est attaqué aussi par les littéralistes. Il défend le Dieu bon. Si Dieu est bon, il ne peut rien avoir créé de mal. Ce qu'il veut expliquer par là, c'est que le fait que certains se retrouvent dans telle ou telle position est lié à une existence antérieure, c'est-à-dire à un moment où les âmes préexistaient. Cette doctrine, bien sûr, ne sera pas retenue par l'Église. Et c'est dans leur choix, cette préexistence des âmes, ce qu'il appelle les noès, les nous, qu'il va y avoir une chute, et que suivant, disons, le péché accompli par ces hommes, la chute aura différents niveaux. Donc, liberté. Deuxième aspect de la pensée d'Origène, Dieu est bon. Dieu est bon et veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il y aura un rétablissement progressif de l'humanité pour Origène. C'est ce qu'il va appeler l'apocatastase. Cette doctrine ne sera pas non plus retenue par l'Église. Mais on ne peut pas dire que Origène est hérétique, parce qu'il élabore des choses sur des points que l'Église n'avait pas fixés. La condamnation d'Origène n'est venue qu'a posteriori, lorsque l'Église a fixé ses doctrines. Mais à l'époque, c'était une époque où l'on pouvait élaborer, où l'on pouvait rechercher, et on voit d'ailleurs à quel point il était large d'esprit, puisqu'il disait à ses disciples, vous pouvez étudier tous les systèmes, vous pouvez rechercher de toutes les façons. Et donc, dans cette liberté, il a essayé de concevoir une synthèse de la doctrine chrétienne, et l'on peut dire que c'est la première synthèse de la doctrine chrétienne qui précède celle de Saint Jean Damascène, qui, elle, est vraiment orthodoxe. Donc, il faut resituer un peu les choses dans leur contexte pour les comprendre. En fait, ce qui est central aussi dans sa pensée, c'est l'assimilation des hommes au Logos. Le Logos, dans son système, est le seul donc, qui n'est pas péché, entre guillemets, qui ne soit pas tombé, qui n'est pas chuté. Et donc, cette assimilation des hommes au Logos, cette assimilation progressive des hommes au Logos, conduit en quelque sorte à leur réhabilitation. Il veut affirmer par là que les hommes sont libres contre les gnostiques. Qu'est-ce que disent les gnostiques? Ils disent qu'il y a des hommes qui sont spirituels et qu'il y en a qui ne le sont pas. Et ça, c'est par nature. Les hommes sont prédéterminés par leur nature. Lui réagit contre ça en disant « Non, les hommes sont libres. Et s'ils sont dans telle ou telle situation, c'est parce que, avant la création, au moment où les âmes donc, étaient dans la préexistence des âmes, il s'est produit un événement qui a conduit à telle ou telle conséquence. Et cet événement s'est produit librement. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais je voulais simplement souligner deux choses. D'une part, que, bien sûr, l'Église ne va pas retenir ses conceptions. D'autre part, qu'il s'agit là de théories qu'il a élaborées dans un essai de synthèse. Et il faut voir aussi quelles sont ses intentions, liberté et bonté de Dieu. La liberté, pour lui, est quelque chose de fondamental. Parce que la liberté suppose le changement, suppose la mutabilité. Soit on progresse vers Dieu, soit on déchoit. Pour Origène, l'esprit créé se reçoit perpétuellement de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un progrès qui est perpétuel. Il ne consiste pas une nature particulière. Il est transcendant à toute nature. Pourquoi ? Parce que l'homme est image de Dieu. Étant image de Dieu, il reçoit en quelque sorte ce progrès perpétuel de Dieu. Mais sa différence radicale avec Dieu, c'est que les biens que les dieux possèdent, que Dieu possède par nature, il les possède par grâce. Il faut donc se représenter l'esprit comme un dieu, avec un petit dé, en perpétuel devenir. Son existence est donc une croissance perpétuelle, par laquelle il ne s'arrête jamais au stade où il est arrivé, mais s'ouvre perpétuellement par la liberté à la grâce de Dieu. Et on voit à quel point cette théorie qui va influencer certains pères, et je pense en particulier à Saint Grégoire de Nice. En fait, c'est ce qu'on avait appelé l'épectase. E-P-E-C-T-A-S-E. À savoir que l'existence du chrétien est un progrès perpétuel. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais globalement parlant, c'est un progrès perpétuel dans la mesure où il reçoit sans arrêt une grâce, où il progresse en quelque sorte dans la grâce. Et ce qui fonde ce progrès, c'est sa liberté. Il s'ouvre perpétuellement par la liberté à une grâce nouvelle. Il ne s'arrête pas. Il ne cesse de s'ouvrir à des biens nouveaux. Nous retrouvons donc ici au principe même de la chute. La loi que nous avons rencontrée dans la théologie de l'histoire, à savoir que l'esprit est engagé et le mal est par définition refus du progrès. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Ancien Testament est un progrès perpétuel. Et ce progrès perpétuel trouve son aboutissement dans le nouveau. Ceux qui s'accrochent à l'Ancien Testament sont à côté de la plaque, en quelque sorte. Ils refusent ce progrès. La vie chrétienne se situe dans cette optique de progrès. Cette idée est d'une nouveauté considérable. Dans la pensée antique, l'homme est prédéterminé par son destin. Il est ceci, il est cela. Il y a des systèmes philosophiques qui sont toujours fixes. La pensée chrétienne introduit un mouvement, introduit une révélation, introduit un progrès. Et c'est là peut-être, disons, un aspect très important de cette pensée. Le littéraliste qui s'accroche à la loi refuse ce progrès. Origène annonce Grégoire de Nice. Ainsi, l'opération continuelle en nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'exerçant à travers chacun des degrés de la procession, c'est à peine si nous pouvons parfois contempler la vie bienheureuse, ou lorsqu'il sera possible d'y parvenir après de multiples combats, nous devons demeurer, en sorte que jamais aucune satiété de ce bien ne s'empare de nous, mais que plus nous percevons de cette béatitude, plus on désire en bien, plus on désire en nous que se dilate et augmente cette béatitude à mesure que nous saisissons et que nous tenons plus ardemment et plus compréhensivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si parfois la satiété saisit quelqu'un de ceux qui sont établis au plus haut degré, je ne pense pas qu'aussitôt il soit rejeté et qu'il tombe, mais qu'il est nécessaire qu'il revienne peu à peu et peu à peu retrouve l'état qu'il avait perdu par sa déclinaison. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur la mystique d'Origène qui me semble très importante. Parce que il va inspirer tout un courant de pensée. La base de sa mystique, c'est la conversion. Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, il faut qu'il retrouve, en quelque sorte, qu'il restaure en lui l'image de Dieu. C'est à l'image du Logos que l'homme a été fait. Et il faut que l'homme retrouve sa dignité d'image. C'est une position assez commune à l'époque. Vers le IVe siècle, on insistera plus sur la transcendance divine et sur le don de Dieu. Mais ça, c'est encore autre chose. Par ailleurs, Origène a développé toute une doctrine de l'itinéraire mystique qui va de la sortie d'Égypte à l'entrée dans la terre promise. C'est plus une mystique spéculative de l'illumination de l'esprit par la gnose qu'une mystique expérimentale de la présence de Dieu cachée dans l'obscurité par le toucher de l'homme. L'initiative du Verbe libérateur est au début de l'itinéraire spirituel, à quoi correspond la conversion de l'âme qui se met en route à sa suite, comme les Hébreux en Égypte, à la suite de la colonne de fumée. Ainsi, l'âme va progresser de demeure en demeure par le renoncement au péché, dans une étape. Une autre station, c'est de se retirer de l'habitation terrestre. L'âme doit habiter comme un voyageur dans les tentes. Pourquoi est-ce qu'elle doit habiter dans les tentes ? Parce qu'elle n'est jamais fixée en un point déterminé et qu'elle est sans arrêt en progression. Après la lutte contre ses péchés, c'est la lutte contre les passions, c'est la conquête de l'impassibilité. Puis viennent des étapes comme la pénitence, l'ascension de la montagne, les épreuves spirituelles de l'âme. L'âme parvient à la vision, à la tentation, C'est le moment des illusions spirituelles et il va développer toute théorie du discernement des esprits. Là, cette théorie est très développée dans le traité des principes et les pères spirituels du désert hériteront de lui. La vie de saint Antoine lui fait une grande place. De là, elle parvient à Rasona, qui signifie vision consommée, intelligence des choses, connaissance des causes de l'incarnation du Verbe et de ses économies. Nous arrivons ici à la notion de gnose que nous avons vue déjà, ou tout à fait, nous en avons parlé lors de la première conférence. La gnose, au sens chrétien du terme, c'est la connaissance des réalités divines. Elle consiste dans la connaissance de Dieu, embrassant la science des choses divines et humaines et leurs causes. Elle porte en particulier sur les causes spirituelles leurs diverses demeures. Le propre de la gnose chrétienne est en effet d'être une connaissance transformante qui introduit dans les réalités dont elle est connaissance. Bien sûr, elle n'échappe pas aux tentations, mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous voyons un peu que pour Origène, cette contemplation du spirituel a pour fin non pas une fin individuelle, mais que Dieu le remplit de lumière et de force pour qu'il puisse entreprendre les grands combats de Dieu qui sont ceux de l'apostolat. Il nous fait les ministres de la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, la mystique d'Origène est une mystique de didascale, finalement, est une mystique d'enseignant, et qui voit dans la fonction même de cette illumination le fait de rayonner, d'enseigner aux autres. Reste alors le dernier sommet de la vie contemplative. Il parle de l'extasis, mais ce n'est pas une extase au sens de sortie de soi, mais c'est plutôt un étonnement violent en présence d'événements inattendus. Et cette mystique reste une mystique de didascale qui culmine dans la contemplation du mystère. Donc, l'interprétation spirituelle de l'Exode est assez admirable chez Origène. Elle est riche d'une admirable doctrine spirituelle. Le thème central est celui du désert. C'est la traversée de la nuit des sens. C'est aussi l'idée d'un progrès permanent, c'est le thème des tentes, des tabernacles où il faut habiter sans s'arrêter, qui sont toujours des demeures provisoires. Nous n'avons pas, ici-bas, de demeure permanente. Nous arrivons au sommet de cette progression, qui est l'union du Verbe à la fois avec l'Église entière et avec l'âme. Je terminerai simplement en insistant peut-être sur sa théorie des sens spirituels, sa doctrine des sens spirituels. C'est le Verbe qui les éveille dans l'âme. Ils sont l'épanouissement de l'homme intérieur. Ils correspondent à des expériences spirituelles qui ont pour objet le Verbe présent dans l'âme. Ils sont donc liés à la perfection de la vie spirituelle. Celui qui est parvenu au sommet de la perfection de la béatitude trouvera ses délices dans le Verbe de Dieu. Ils sont liés à la mortification de la vie charnelle. À mesure que l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se fortifie. Il captive l'âme et l'arrache à elle-même. Celui qui a goûté les choses divines, les choses charnelles n'ont plus de saveur pour lui. Cette doctrine d'Origène sera développée longuement par Grégoire de Nice. Il insiste beaucoup sur l'opposition entre sens charnel et sens spirituel. Au début, la vie spirituelle paraît amère, parce que les sens charnels sont frustrés et les sens spirituels non encore éveillés. Mais pour l'âme qui consent à traverser tes désirs peu à peu, le goût de Dieu s'éveille. Et nous trouvons une très belle description de cet éveil des sens spirituels chez un auteur peu souvent cité dans l'orthodoxie, je veux dire saint Augustin. Dans les Confessions, saint Augustin nous dit « Tard je vous ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimé, c'est que vous étiez au-dedans de moi et moi au-dehors de moi, et c'est là que je vous cherchais. Ma laideur se jetait sur tout ce que vous avez fait de beau. Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous. Ce qui, loin de vous, me retenait, c'était des choses qui ne seraient pas si elles n'étaient en vous. Vous avez appelé, vous avez crié, vous êtes venu à bout de ma surdité. Vous avez étincelé, et votre splendeur a mis en fuite ma cécité. Vous avez répandu votre parfum. Je l'ai respiré, je soupire auprès de vous. Je vous ai goûté et j'ai faim et soif de vous. Vous m'avez touché et je brûle le désir de votre paix. » Nous avons ici une description de tous les sens spirituels. Donc nous avons une vision d'origine qui est essentiellement celle d'un homme d'Église, celle d'un enseignant, celle d'un prédicateur, qui se situe dans une époque très difficile, on peut même dire dramatique, de la vie de l'Église. C'est aussi celui qui a le plus réfléchi, le plus pensé sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans ce sens, il exprime très profondément la tradition de l'Église, tradition qui malheureusement tend à se perdre un peu de nos jours, on tend à séparer parfois l'Ancien et le Nouveau Testament. Retrouver ce sens de la typologie qui caractérise les pères, savoir distinguer la typologie de l'allégorie qui est un petit peu superflue et que l'on trouve chez Origène. C'est avant tout un docteur de la parole de Dieu. C'est un homme qui a rencontré le Christ. Il s'est fait l'écho d'une théologie de la rédemption comme victoire sur les puissances du baptême et du martyr. Sa doctrine sur les fins de l'histoire et l'histoire du salut qu'il essaie d'expliquer en partant de la liberté de l'homme et de l'amour de Dieu n'est qu'un aspect de sa pensée et de sa théologie. Fondamentalement, il est quelqu'un qui est chrétien. La communauté chrétienne est pour lui le corps mystique, dont le Christ est le chef. L'exégèse a pour but de démontrer que le Christ est partout présent dans l'Ancien Testament sous le voile de la lettre. La théologie est la doctrine du Verbe qui s'incarne pour restaurer autour de lui l'unité des créatures spirituel qui participe à lui. La mystique est une mystique du Verbe incarné qui n'a d'autre but que la conformité avec le Verbe et la transformation en lui. Pour terminer, je voudrais simplement signaler que si Origène a été écarté et mal compris très souvent, il y a eu tout un mouvement de retour vers Origène et que ce mouvement de retour s'est fait dans un mouvement de retour beaucoup plus général vers les pères. Il a commencé en France, par exemple. Il était très marqué en France avec la fondation de la collection des sources chrétiennes, fondation qui s'est faite pendant la guerre. Ce sont les jésuites de Fourvière qui ont lancé cette collection. Après ça, est venue l'étude des pères, des personnalités, comme le cardinal Danielou, dont je m'inspire largement dans cet exposé, le cardinal de Lubac, Urs von Balthasar, sont intervenus sur ces sujets. Je voudrais citer aussi, rendre hommage au travail de Marguerite Arles, dont la thèse concernait Origène et qui est la fondatrice qui a lancé ce mouvement de traduction de la Septante dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Je voudrais simplement insister sur l'importance qu'il y a à lire la Bible, à lire les Écritures et à lire les Écritures dans une perspective typologique qui est celle des pères et de la tradition chrétienne. Je vous remercie.